Radio Kapi.
12h à Kinshasa, le journal Pascal Massirica.
À la une de l'actualité ce midi, Augustin Matata Ponyo n'est plus en résidence surveillée. Le parquet est prêt. La Cour constitutionnelle l'a libéré hier soir après avoir trouvé à la DGTP les soubassements des paiements liés à l'indemnisation des victimes de la aérianisation. Le parquet et la police judiciaire s'abstiennent de commenter ce dossier. Reddition hier à Kichanga d'au moins 70 miliciens du groupe armé Nyatura Bazungu au Nord Kivu. Très actifs dans les territoires de Masisi, ils ont également remis 65 armes. Notre invité, c'est le porte-parole des opérations Sokola 1 au Nord Kivu. Le lieutenant Anthony Mualouchaï rappelle qu'aucun soldat des FARDC ne peut se retrouver parmi les habitants à Beni pendant ces opérations. Madame, Messieurs, bonjour. Le sénateur Augustin Matata Ponyo n'est plus en résidence surveillée. Le parquet, près la Cour constitutionnelle, a décidé de le libérer hier mercredi autour de 21h après une brève audition des confrontations de pièces. C'est ce qu'annonce à Radio Capis ce jeudi matin son avocat. Maître Laurent Onyemba affirme que le parquet a trouvé à la direction de la dette publique tous les soubassements des paiements liés à l'indemnisation des victimes de la aérianisation. Du coup, Augustin Matata Ponyo est donc remis en liberté en attendant la décision finale du parquet de poursuivre ce dossier ou de le classer sans suite, ajoute son avocat. Il a été joint par Michel Kifindangoy.
L'honorable Matata Ponyo a été entendu, comme vous savez bien, le parquet a décidé justement de le mettre en examen et de le mettre sous résidence surveillée. Au terme justement des autres éléments mis du réquisitoire du procureur général, notamment à la DGDP et au ministère des Finances pour vérifier les éléments qui manquaient dans les dossiers dits de paiement de la dette publique extérieure, eh bien il a été rappelé très tard dans la nuit pour être conforté à cette pièce et que la conviction du parquet est allée dans le sens positif, justement à dire que tous les dossiers pour lesquels il était reproché, on a donc trouvé des soubassements. Et voilà, au terme de cette audition qui n'a pas été très longue comme les deux précédentes, le parquet de la Cour constitutionnelle a décidé de lever justement la mesure de la mise en résidence surveillée qui était le statut juridique dans lequel il s'est retrouvé. C'est avec joie que nous pouvons vous confirmer l'information.
Toujours selon Maître Onyema, l'ancien directeur général de la DGDP envoyé à la prison de Makala mardi dernier a également été libéré lors de l'audience d'hier. Radio Okapi a contacté aujourd'hui à ces sujets le parquet et l'inspection générale de la police judiciaire. Ils se sont abstenus de commenter ce dossier. Dans l'actualité, il y a également l'ouverture ce jeudi de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale de l'Omami. Au menu, la poursuite de l'enquête sur la gestion des finances et d'autres ressources de la direction des recettes, étant donné que certains députés provinciaux avaient été cités d'avoir organisé des réseaux lors de l'opération de recrutement des agents de cette régie financière pour récupérer des recettes provinciales. C'est ce que nous explique en Boujimaï Esther Ndalafina.
Dans le communiqué diffusé sur le média local, le bureau de l'Assemblée provinciale de l'Omami convoque la session extraordinaire pour une durée de 30 jours à partir de ce jeudi 15 juillet. Le même communiqué indique que 7 points sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agira de faire la présentation officielle des 3 membres du bureau, réhabilités au mois de juin par la Cour constitutionnelle. Le contrôle de la comptabilité et autres ressources de l'Assemblée provinciale sera au rendez-vous. L'Assemblée provincial va également examiner et adopter le projet dédié portant reddition des comptes de la province de l'Omami pour l'exercice 2020. Le point qui cadre avec l'examen et adoption de la proposition dédiée portant mesures d'encadrement des services dans la lutte contre l'insalubrité publique dans la province de l'Omami sera aussi débattu. Celui de l'examen de la participation des députés à la session extraordinaire de janvier 2021, la modification du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Omami figure parmi les points inscrits. L'Assemblée provinciale va clôturer cette session avec la poursuite de l'enquête sur la gestion des finances et autres ressources de la Direction générale des recettes de la Lomami. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce midi, au Nord Kivu au moins, 70 miliciens de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits de l'homme, appelés communément Nyatura Abazungu, se sont rendus hier après-midi au FRDC à Kichanga. Accompagnés de leur commandant second, ces éléments ont été accueillis par le gouverneur, le lieutenant général Constant Dima. Très actifs dans les territoires de Massissi, ces ex-combattants ont également remis 65 armes. Le compte-rendu de Sifa Magourou.
Il s'agit d'une première vague de rendus d'après les commandants seconds de ce mouvement qui a remis ses combattants au phare d'ici. D'autres sont également prêts à se rendre à condition que leurs camarades soient bien pris en charge, a déclaré Ignace Saouli Dounia. Ce dernier affirme avoir été motivé par l'appel des autorités pendant cette période de l'état de siège pour déposer les armes. Dans son message aux ex-combattants, le lieutenant-général Constant Dima a souligné que c'est le moment de faire la paix. Tout en saluant ses gestes de reddition, le gouverneur les a rassurés que la structure DDRCS tant attendue est déjà mise sur pied par les chefs de l'État pour les accueillir.
Comme aujourd'hui vous venez de quitter la brousse, nous sommes très contents de vous accueillir comme nos frères. Le DDRCS va s'occuper de tous les rendus comme vous. Après quoi, tous ceux qui ne vont pas déposer les armes, nous allons nous occuper d'eux et les traquer jusqu'au bout.
Signalons que depuis la signature de l'ordonnance instituant cette structure, rien n'a encore été fait localement pour le lancement des activités de réinsertion. Les rendus sont toujours cantonnés à Mubambiro et Rumangabo sans une prise en charge bien définie. Goma, Sifa Magourou, Radio Okapi.
Nord Kivu, encore la suspension du trafic routier par les chauffeurs de l'axe Butembo-Bounia engendre beaucoup de conséquences. Plusieurs voyageurs qui se rendaient à Bounia sont bloqués en ce moment. En plus, les chauffeurs et les agents des agences de voyage déplorent le chômage forcé auquel ils sont confrontés. Cette suspension de trafic a été décidée par les agences et les chauffeurs, proprement dit, à cause de l'insécurité sur cet axe routier. À Butembo, une correspondance de Grâce Amouzati.
Dans les quelques agences de voyage où nous nous sommes rendus ce jeudi, on y trouve des chauffeurs debout et en groupe. Visiblement, rien ne marche. Des voyageurs qui viennent se renseigner sont obligés de retourner soit à l'hôtel, soit à leur domicile. Interrogés, les chauffeurs disent que leur décision vise à préserver leur vie et celle de leurs passagers, même s'ils savent que c'est difficile. Pour eux, le tronçon Luna Komanda à Nituri est devenu un coupe-gorge. Mapasa Kwadja, c'est l'un d'eux, témoigne.
Ça fait 2 semaines qu'on est ici. On passe la journée au parking, les véhicules sont chargés, mais il n'y a pas moyen de partir à cause de l'insécurité. Personne ne nous interdit de partir. Mais nous-mêmes, nous avons pris cette décision à cause de l'insécurité sur la route. La route, c'est notre vie. Et comme on ne travaille pas, notre vie devient difficile. Et si les gouvernements écoutent ces cris d'alarme, qu'ils nous sécurisent. La vie de nos enfants aujourd'hui est déplorable. Nous mangeons difficilement et nous ne sommes plus à mesure de faire quoi que ce soit.
Contacté, le porte-parole de l'armée à Ituri affirme que les militaires phare d'essai sont présents sur tous ces axes et que des véhicules y circulent normalement. Le lieutenant Jules Ngongo appelle ainsi les chauffeurs à vaquer à leurs occupations et à faire confiance aux forces armées de la RDC qui traquent l'ennemi dans cette zone. Butembo, Grâce Amouzati, Radio Okapi.
On enchaîne avec l'Équateur où les systèmes de surveillance nutritionnelle tirent la sonnette d'alarme. C'est à la suite de la montée des cas de malnutrition dans 14 zones de santé sur les 18 que compte la province. Le fléau affecte principalement plus de 110 000 enfants, ce qui explique l'appui de la FAO dans l'organisation depuis lundi dernier d'un atelier de formation de 20 ONG féminines locales. Il vise la prévention de la malnutrition et la réalisation des recettes culinaires à la portée des familles démunies. En Mbandaka, Paul-Richard Malengela.
Au moins 150 enfants à l'Équateur, dont la plupart âgés de 0 à 5 ans, sont menacés de malnutrition ou en souffrent de manière aiguë et sévère. C'est qu'a témoigné Mme Ruth Bengo, coordonnatrice de l'ONG AMEF, qui encadre ses familles à Mbandaka, Bikoro et Ingende. En guise de prévention de cette malnutrition, la FAO, qui exécute le projet Pirède Plus à l'Équateur, organise depuis lundi une formation de 8 jours. Elle consiste à des démonstrations culinaires et à l'éducation nutritionnelle, ce qui va efficacement combattre la malnutrition et la sous-alimentation dans la communauté, Guinée, s'est félicité le coordonnateur du Pronanit Équateur, Alphonse Makbolo. Cette formation est assurée par l'expert FAO en nutrition venu de Kinshasa et qui est assisté par d'autres facilitateurs locaux. Madame Véro Maji Mumbaya, présidente des Mamans Maraîchères de l'Équateur, dit avoir particulièrement apprécié comment équilibrer les aliments, notamment par la combinaison des 4 étoiles ou types, dont aliments de base, légumineuses, fruits ou légumes et aliments d'origine animale. Notons enfin qu'après la théorie clôturée ce jeudi, la partie pratique consacrée aux recettes culinaires ira jusqu'au 19 juillet à Bolengue, à 9 km du centre-ville de Mbandaka. Mbandaka pour Chamalengue, la radio Okapi.
Il est 13h10 à Kindu. Rendons-nous maintenant au Maniema où les détenus de la prison de Kasongo seront soumis à une série de recyclages techniques, annonce faite mercredi après-midi par la sous-division de la formation professionnelle à Kindu. Des précisions avec vous, Florence Kizalunga.
Le centre de formation de la prison centrale de Kasongo organisera dans un premier temps le filière ci-après, la menuiserie, la mécanique auto, l'informatique et la coupe et couture. Joseph Brahim, le sous-prefet de la formation professionnelle et métier, nous parle de la mission de ces centres.
Ce centre a pour mission de contribuer efficacement à la logique de rééducation de nos frères et sœurs et a été d'une manière ou d'une autre en conflit avec la loi. Nous osons croire que personne de nos frères et sœurs en état d'arrestation ne sortira de ces quatre murs comme il est entré, mais il deviendra plus utile et intéressant dans la société.
Le directeur de la prison, Molisho Limengo, lui sollicite un appui pour la performance de ses centres.
La prison dans le monde entier aujourd'hui prône l'humanisation en aidant les détenus à gérer leur peine au quotidien dans des conditions appropriées et à préparer leur retour à la vie libre ou leur insertion dans la société. Frères, amis, chères mères, sœurs, ayez la conscience de nous aider. Appuyez-nous avec le matériel pour la performance de nos frères et sœurs détenus.
Signalons que cette formation a une durée de 6 mois à 1 année. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Les médecins du Kwilu sont également en grève assortie d'un service minimum. Leur secrétaire exécutif provincial précise à Radio Okapi que plusieurs actes médicaux sont également suspendus. Docteur Lionel Ngimba, qui s'inquiète de la situation, pense que ce sont plutôt les malades qui sont les victimes de cette grogne. Il met le gouvernement central devant ses responsabilités. À Bandundouville, Irène Boma.
L'effectif des médecins sensiblement réduit dans les hôpitaux, les services de consultation externe fermés, les interventions chirurgicales qui ont été programmées sont repoussées à des dates ultérieures. Telle est la situation dans les formations sanitaires publiques de la province du Kwilu pendant cette grève des médecins. Pour le docteur Lionel Ngimba, secrétaire exécutif provincial du Sinamed Kwilu qui s'inquiète, ce sont les malades qui en souffrent et qui en subissent les conséquences. Il demande au gouvernement congolais de vite répondre favorablement aux désiderata des grévistes pour le bien de ces malades congolais.
Je pense que la responsabilité incombe à nos autorités et c'est au banc gouvernemental de trouver une solution la plus durable le plus tôt possible pour remédier à tous les problèmes que traversent nos patients qui sont le peuple congolais. La population, nos patients, ils sont victimes de ces mouvements de grève qui en souffrent bien sûr, là nous l'avouons, mais on ne peut rien. Nous ne faisons que revendiquer notre droit. Le salaire, la prime, le volet administratif que nous revendiquons, c'est un droit. Ce n'est pas une demande ou une faveur que le gouvernement va nous faire.
Docteur Lionel Ngimba appelle tous les médecins du secteur public du Kwilu à faire confiance aux délégués nationaux qui sont en pourparlers avec le gouvernement central. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Ouverture ce jeudi matin à Porto Novo, Bénin, du procès de l'opposant Joël Aïvo, candidat récalé à l'élection présidentielle organisée au pays le 11 avril dernier. Il avait été arrêté au lendemain du scrutin en pleine rue. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le poursuit pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment d'argent. Pendant 7 ans, en Afghanistan, les talibans ont proposé un cessez-le-feu de 3 mois en échange de la libération de 7 000 de leurs prisonniers par les autorités du pays. Annonce faite ce jeudi matin par un membre de l'équipe gouvernementale à l'issue des négociations avec les insurgés. Il ajoute que les talibans demandaient également que les noms des dirigeants du mouvement soient retirés d'une liste noire des Nations Unies.
L'invité.
Notre invité, c'est le porte-parole des opérations militaires Sokola 1 au Grand Nord Kivu. Le lieutenant Anthony Mwalushai rappelle qu'aucun soldat des FARDC ne peut se retrouver parmi les habitants à Beni pendant ces opérations. Il s'entretient avec Marc Marofimo.
Monsieur le lieutenant Anthony Mwalushai, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Les commandements du secteur opérationnel Sokola 1 viennent de lasser une forte décision, une restriction d'ailleurs, qu'aucun élément militaire peut rester parmi la population. Comprenons, c'est quoi la motivation principale de cette forte décision?
Merci. Le commandement du secteur opérationnel Sokola 1, commandé par le général de brigade Mputela Bertin, a pris la décision de voir tous les militaires qui sont déployés et autorisés à rester sur la ville. Par exemple, les malades, ceux qui ont des problèmes au niveau de leur famille, de ne plus rester sur la ville. Les militaires qui ne sont pas dans les opérations sur la ville doivent rester à Mambango, c'est-à-dire au-delà du bataillon de défense ville qui est censé rester sur la ville pour défendre la ville, bien sûr. Au-delà des officiers de l'état-major sectaire qui ont des attributions qui sont censées rester sur la ville pour accomplir, n'est-ce pas, leurs devoirs, tous les militaires doivent rester au camp Mambango. C'est ça le camp militaire, c'est-à-dire ils doivent quitter la ville de Beni pour aller rester au camp Mambango. Pourquoi ils doivent quitter la ville? C'est justement pour nous permettre de bien travailler, pour ne pas donner raison à tous ceux qui pensent que ce sont des militaires qui n'ont rien à faire sur la ville, qui sèment de l'insécurité sur la ville. Alors nous voulons nettoyer la ville dans ce sens pour rester avec les militaires qui sont actifs dans la ville, c'est-à-dire qui ont des fonctions ou bien qui sont obligés à travailler sur la ville. Voilà.
Et est-ce que, au loin de cette raison, il y a aussi des raillements accusés de la part de ces militaires?
Exactement. Quand on vient récemment, on a fait des bouclages. Après bouclage, nous avons arrêté plus de 72 personnes, parmi eux 14 militaires. Et parmi ces 14 militaires, la majorité nous racontaient les histoires telles qu'ils ont l'autorisation de rester ici, sur la ville. Ils nous montrent des feuilles de route et en attendant qu'ils partent à Kinshasa pour leur formation. Mais tout ça, c'est la cacophonie. Les commandants secteur opérationnel Sokola 1 a dit « Ok, vous avez des feuilles de route, vous êtes autorisé, votre place ce n'est plus sous la ville de Beni, votre place est au camp Mambango. » C'est ça le camp militaire. Avec vos familles, vous pouvez rester là-bas, vous êtes bien sécurisé et vous serez mieux contrôlé que rester dans la cité, mélangé avec la population. D'autres bandits peuvent profiter, n'est-ce pas, votre présence. Et voilà, ça va tomber sur vous quand des opérations de bouclage comme on vient de le faire. C'est tellement difficile qu'on comprenne les justifications. Et nous, à notre niveau, nous n'avons pas le choix que de mettre ces éléments à la disposition de la justice militaire. Et c'est la justice militaire qui va nous dire pourquoi ils traînaient encore sur la ville de Beni.
On peut dire que c'est une mesure aussi qui va sauver un peu la population qui pointait toujours l'armée d'être à la base des cas de vol armée dans la ville. Et alors comment la population va se comporter maintenant?
La population ne doit pas se rebeller contre l'armée, c'est ça, c'est normal. Et la population dans son ensemble, comme tu le sais, mieux collabore avec notre armée. Le mieux à faire, c'est que la population doit nous informer en temps réel, c'est-à-dire, dans notre quartier, nous avons un soldat qui chaque fois ne porte pas la tenue pour aller au service. Apparemment, il n'est pas affecté dans la ville de Beni. C'est-à-dire, nous allons arriver sur terrain, interpeller le monsieur. Si c'est vrai, allez les déposer au camp Mambango directement ou soit directement à l'auditorat militaire. Parce que le message est clair, ils doivent quitter la ville de Beni et aller habiter avec leur famille au camp Mambango. C'est clair.
Monsieur le lieutenant Atulima Chaylo, vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord Kivu, le lieutenant Anthony Mwalushai, qui a rappelé qu'aucun soldat des FARDC ne peut se retrouver parmi les habitants de Beni pendant les opérations. Il s'entretenait avec Marc Marofimo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Infiniment merci à Élisée Chikota Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Irungmouchige. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net et sur les différentes plateformes numériques de Radio Okapi. Maintenant, il est 12h20. Dans une poignée de secondes, la page des sports, le rendez-vous de Dieudonné Kabeyangalula.